Ce matin, il m'a été demandé d'aborder avec vous, je ne sais pas si vous le savez, mais sur le thème du Saint-Esprit. Alors, c'est assez, ça me fait souvent sourire parce qu'à chaque fois qu'on m'invite, on me demande toujours, Michel, est-ce que tu peux prêcher sur le Saint-Esprit ? Comme s'il y avait une étiquette, mais c'est vrai aussi que j'aime prier pour cela, j'aime prêcher le Saint-Esprit. J'ai à cœur de voir des hommes et des femmes qui sont remplis de la présence du Saint-Esprit et qui marchent dans la puissance de Dieu. Et nous allons essayer de comprendre finalement ce matin qu'est-ce que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il parle, lorsqu'il enseigne sur ce sujet du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il enseigne la venue du Saint-Esprit au milieu de ses disciples sur la terre. Ce qui nous intéresse, nous, bien entendu, c'est de saisir non pas la pensée des hommes, mais de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Vous savez, là, quelque chose que j'ai constaté lorsqu'on fait, par exemple, le tour de certaines églises, souvent dans les églises, nous disons et nous aimons le dire avec conviction, nous prêchons la parole de Dieu. Nous allons chez les évangéliques, ils disent, nous prêchons la parole de Dieu. Puis vous parlez avec des mormons, ils disent, j'ai la parole de Dieu. Puis vous parlez avec des témoins de Jéhovah, nous avons la parole de Dieu. Puis vous allez dans un autre mouvement, vous avez la parole de Dieu. Et puis finalement, on constate que beaucoup de personnes prêchent un même verset, nous avons chacun des interprétations parfois différentes. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu pour chacun. Alors, nous avons besoin de saisir vraiment quelle est la pensée de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où il y a tellement de paroles qui est prêchées. Nous sommes dans un temps où nous sommes presque obligés de ne pas juste écouter une parole, mais d'aller la chercher pour nous-mêmes, d'aller dans le lieu secret pour la saisir et demander au Seigneur, viens me révéler ta parole, viens me déposer dans mon cœur ce que toi, vraiment, tu penses. Et Seigneur Jésus, je désire marcher dans la pensée que tu as pour moi encore aussi ce matin. Et donc, permettez-moi juste maintenant de vous donner juste un petit mot de témoignage pour introduire ce message. Donc, je m'appelle Michel Viau, comme ça a été dit. J'ai 42 ans, oui. Pas toujours facile de le dire, hein, mais voilà. Je suis marié, ma femme aurait dû être là, mais il y a eu un petit imprévu, elle est malade. Et donc, elle est restée à la maison avec les enfants. Et donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et ça fait maintenant 22 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait maintenant 22 ans, à l'âge de 20 ans, je me suis converti de manière assez radicale à Jésus. Et lorsque je parle de ma conversion à Jésus, j'aime insister sur un point. Et voici ce point. J'aime dire que ma conversion est le fruit d'une puissante rencontre avec Jésus. Pourquoi je me suis converti à Jésus? Pourquoi je me suis converti à Jésus, pas à un autre? Je me suis converti à Jésus, et ça se passe en Belgique, parce que je ne vous l'ai pas dit ça, mais je suis belge, oui. Je suis né à New York, mais bon, ça aussi j'aime le dire, hein, mais je suis belge. Bon, j'ai rencontré ma femme en Angleterre, qui est suissesse. Bon, voilà. J'ai vécu aussi une partie en France, mais voilà, maintenant je suis ici à Lausanne, Dieu me fait un peu voyager partout. D'ailleurs, je connais aussi votre ami Lovis, hein, Jean-Jacques, qui est aussi en Belgique. mais j'étais insignifiant, j'étais tout petit, je venais de me convertir, lui c'était le grand pasteur qui implante. Voilà, et donc, à l'âge de 20 ans, dans un petit village qui s'appelle Pâturage, oh là là. Il n'a pas de vache pourtant dans ce village. Ah, bon. Et je me suis converti donc à l'âge de 20 ans. Et donc, pourquoi je me suis converti à Jésus, pas à un autre ? Mais je ne me suis pas converti à Jésus seulement parce que on m'a parlé de Jésus. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont parlé de Jésus, cela m'a interpellé, mais ce n'est pas forcément ça qui a fait le déclic dans mon cœur. Je ne me suis pas converti à Jésus parce que la Bible dit que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Seigneur, et la Bible dit donc tellement de choses merveilleuses, bien sûr, sur Jésus, et j'ai lu ces choses-là, mais ce n'est pas forcément cela qui a fait, à ce moment-là, le déclic. Alors peut-être que ça a préparé mon cœur. Mais si je me suis converti véritablement à Jésus, ce qui a vraiment eu du poids dans ma vie pour faire le pas justement vers Jésus, c'est le jour où j'ai reçu une révélation dans mon cœur. C'est le jour où Jésus personnellement m'a prouvé que ce que les autres ont dit, ce que la parole de Dieu dit est vrai. Et Jésus m'a prouvé qu'il était non seulement vivant, mais qu'il est aussi tout-puissant pour accomplir ce que la Bible dit. Et c'est ça qui m'a encouragé à faire le pas. Et j'ai trouvé ça tellement excitant de dire que la Bible n'est pas juste un livre, mais la Bible est vraiment la parole de Dieu et qu'elle nous parle, elle nous enseigne, elle nous dévoile un Dieu qui est réellement vivant. Et Jésus, à l'âge de 20 ans, est venu dans ma chambre. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'étais en proie ce soir-là à toutes sortes de forces démoniaques. C'est mon témoignage, c'est comme ça que j'en parle. Et il y avait un esprit qui était là en moi, qui agissait, qui me faisait du mal. Et j'étais dans un combat avec cet esprit mauvais quand soudainement Jésus est arrivé. Je ne le connaissais pas, mais son nom s'est gravé dans mon esprit, J-E-S-U-S, en lettres de feu. Et cette personne qui venait d'arriver, je savais par révélation que c'était Jésus. Et Jésus a pris autorité sur cet esprit qui est parti de moi. Je le sais, je l'ai entendu partir avec un grand cri. Et je fus complètement délivré cette nuit-là dans ma chambre. Et lorsque je me suis réveillé, j'étais en pleurs. J'avais peur aussi. Et il n'y avait personne, quand j'ai repris connaissance, il n'y avait personne autour de moi. Jésus n'était plus là. Et j'ai donc pris, comme dans un réflexe, une Bible que j'avais reçue par le fiancé de ma sœur à l'époque, qui est maintenant pasteur en Belgique. Et j'ai pris ce livre, la Bible, et je l'ai ouvert. Pour me sentir en sécurité, la Bible représentait Dieu. Et j'ai pris cette Bible, je l'ai ouvert et je suis tombé sur le psaume 91. Et du verset 1 au verset 16, Dieu m'a personnellement parlé, réconforté, encouragé. Et lorsque j'ai lu ce verset 16, où il est dit « Et il contemplera mon salut », c'était une conviction dans mon cœur maintenant que j'étais sauvé. Une conviction dans mon cœur que j'appartenais à Dieu. Et je recevais pour la première fois une paix que j'avais pourtant cherchée dans des boîtes de nuit, dans des relations diverses, et sans jamais vraiment trouver cette paix qui maintenant remplissait mon cœur et apportait une sécurité, apportait un bien-être, la paix, le shalom de Dieu dans mon cœur. Pourquoi je vous raconte cela ? Je vous raconte cela parce que cette nuit-là, j'ai pris conscience de quelque chose de très important. J'ai pris conscience d'une chose que malheureusement beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas ou n'ont plus conscience. J'ai pris conscience que le monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous vivons, ce monde que nous pouvons voir avec nos yeux, j'ai pris conscience que oui, c'est une réalité, mais elle n'est pas la seule réalité. J'ai pris conscience qu'une réalité n'est pas seulement quelque chose que je peux voir avec mes yeux, que je peux toucher avec mes mains, que je peux entendre avec mes oreilles. J'ai pris conscience qu'il existait d'autres réalités en plus de ce monde. Dieu, par exemple, le royaume de Dieu, ce sont des réalités. Dieu est une réalité, pourtant je ne le vois pas avec mes yeux, je ne le touche pas avec ma main. Oui, parfois on peut l'entendre lorsqu'il le désire avec mes oreilles, même si ça arrive rarement. On l'entend souvent à l'intérieur de nos vies, dans nos cœurs, en lisant la parole, mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Pourtant, nous savons qu'il est réel. Le monde des ténèbres aussi est une réalité. Et j'ai pris conscience de cela, j'ai pris conscience que le diable agissait dans ce monde. Que le monde, que le diable et tout ce royaume de ténèbres exerçaient une influence néfaste sur ce monde. Et quel est le rapport maintenant avec le Saint-Esprit ? Ben, le rapport est grand. Le rapport est celui-ci. Le Saint-Esprit est la personne que Jésus nous a promis pour nous accompagner dans ce combat. Le Saint-Esprit est la personne qui vient nous équiper, nous aider à faire face à ce combat, à résister au diable. Il est la personne qui vient nous enseigner comment marcher sur la puissance des ténèbres. Et la vérité est que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin de plus d'hommes et de femmes qui aussi se laissent transformer par le Saint-Esprit et qui laissent ce fruit aussi paraître à la gloire de Dieu. Nous avons donc besoin de comprendre qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit n'est pas le petit dernier de la Trinité. Hein, souvent, on se dit ça, hein, le premier c'est le Père, le deuxième c'est le Fils, puis le petit dernier qu'on a tendance à oublier, c'est le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le petit dernier. Alors, la première chose, à mon avis, à bien comprendre, est que le Saint-Esprit est une personne, comme je viens de le dire, mais il n'est pas n'importe quelle personne. Qui est le Saint-Esprit ? Il n'est pas n'importe quelle personne. Il est et il devrait être pour chacun d'entre nous ici-bas sur Terre. Ici-bas sur Terre, je dis, il devrait être la personne la plus importante dans ma vie. Jésus aujourd'hui n'est plus sous la terre, en chair et en os. Jésus est dans le ciel. Nous le savons d'après Actes chapitre 1. Jésus, les disciples l'ont vu. Nous croyons ce que la parole de Dieu dit. Jésus est monté dans la gloire pour s'asseoir auprès du Père. Mais il a promis qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Et il dira dans Jean 14, verset 16, un verset que nous allons reprendre aussi plus tard, mais il dira dans Jean 14, verset 16, « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur ou défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Regardez bien ce verset. Jésus n'a pas dit « Je vais vous envoyer un grand homme de Dieu. » Il n'a pas dit « Je vais vous envoyer un président. » Il n'a pas dit « Je vais vous envoyer un roi. » Il n'a pas dit « Je vais vous envoyer un grand rabbin qui va vous enseigner les voies de Dieu. » Jésus n'a pas dit « Je vais vous envoyer un grand philosophe qui va vous aider à réfléchir au sens de la vie. » Non, il a dit « Je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre défenseur. » Les disciples n'avaient pas besoin d'un président. Les disciples n'avaient pas besoin d'un roi. Les disciples n'avaient pas besoin d'un grand rabbin. Les disciples n'avaient pas besoin d'un grand philosophe. Le seul moyen de pouvoir continuer dans les œuvres de Dieu, c'était par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était la seule personne capable de les amener exactement là où Dieu voulait les emmener. Un grand homme de Dieu, un grand rabbin, un président n'en était pas capable. Mais le Saint-Esprit, lui, en est capable. Alors il dit, vous avez besoin d'un autre consolateur si vous voulez continuer dans mes pas, si vous voulez entrer dans les œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. Et cela fait du Saint-Esprit la personne la plus importante pour chacun d'entre nous. Jésus dira aussi un verset qui me vient à l'esprit, Jean 16, verset 7. « Il est dans votre avantage, dira Jésus, En vérité, je vous le dis, il est dans votre avantage que je m'en aille. Car si je reste, ben je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Par contre, si je pars, je pourrai vous l'envoyer. Et Jésus précise que c'est à notre avantage. Donc, le Saint-Esprit, sa venue, nous met dans une position avantageuse par rapport au reste du monde. Ce qui fait de lui la personne la plus importante pour toi et moi. Maintenant, ce qui est intéressant à relever est que lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il en parle souvent comme une promesse. Il dira par exemple à ses disciples dans Luc 24, au verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors qu'est-ce qu'une promesse ? Une promesse, c'est l'engagement que l'on prend pour accomplir ce qu'on a dit. Pour qu'il y ait donc une promesse, il doit y avoir quelque chose qui soit dit. Et on prend l'engagement d'accomplir ce qu'on a dit. Donc le verbe promettre signifie tout simplement s'engager à accomplir ce qu'on a dit. La parole ne suffit pas, il faut qu'il y ait un engagement. Et lorsque Dieu parle, il ne fait pas que parler, il s'engage envers sa parole. Et lorsque Dieu nous promet quelque chose, ce n'est pas juste des paroles en l'air. À chaque parole qu'il dépose dans nos cœurs comme une promesse, il y a derrière un engagement à aller jusqu'au bout, un engagement à accomplir ce qu'il a dit. C'est ce que nous constatons en effet dans le livre de Jérémie, c'est la révélation que le prophète a reçue. Jérémie chapitre 1 verset 10, Dieu lui dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Ésaïe 55 verset 11, aussi « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins ». Il y a dans le livre, dans ce livre qui est la Bible, une multitude de promesses. Par exemple, Dieu a promis d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu a promis de te délivrer de tout danger si nous crions à lui de tout notre cœur. Psaume 34, verset 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Dieu promet de nous protéger et d'être avec nous dans les temps d'épreuve. Un bouclier, il promet d'être un bouclier. Psaume 18, verset 30, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Dieu promet de nous diriger et de nous conduire sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Psaume 25, verset 9, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Dieu promet de pourvoir à nos besoins. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu promet de nous sauver, de nous purifier de tout péché, 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dieu promet aussi de nous guérir. Ésaïe 53, verset 5. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce sont toutes des promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'une promesse ? C'est l'engagement que l'on prend pour accomplir ce qu'on a dit. Jésus, maintenant, est avec ses disciples. Il est à la fin de son ministère terrestre. Il est sur le point de partir dans la gloire. Mais juste avant de partir, Jésus a encore quelque chose à dire à ses disciples. Il y a encore une liste de choses qu'il veut leur dire. Et parmi ces choses, il y a des promesses que Jésus veut leur rappeler. Et une de ces promesses, nous venons de le lire, c'est d'attendre la promesse du Père. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Jésus ici s'engage à accomplir pour ses disciples ce que le Père avait promis. Quelle était cette promesse ? La venue du Saint-Esprit avec eux et en eux. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, un chapitre très intéressant, Jésus se retrouve face à une foule comme souvent à son habitude. Ses disciples venaient de lui poser la question, mais enseigne-nous à prier. Puis Jésus, voilà qu'il va leur enseigner plusieurs choses, va finir par s'adresser à ceux qui étaient des pères dans la foule et va leur dire à eux, vous hein, qui êtes les papas, lorsque votre enfant vient vers vous, il vous demande à manger. Lorsque votre enfant vient vers vous, il vous demande du pain. Vous n'allez pas lui donner une pierre. Hein. Et s'il vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent. Et s'il vous demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. On est tous d'accord avec cela. En tant que père et même en tant que mère, on veut le meilleur pour nos enfants. Comme en général, c'est moi qui fais à manger quand je suis là à la maison. Mes enfants sont toujours en bonne santé. Alléluia. Je veux le meilleur pour eux. Même si pour eux, parfois, ce que je leur propose, c'est du poison. Oh, les brocolis, non. Les petits pois, non. Mais on sait très bien qu'on veut le meilleur pour eux. On veut qu'ils grandissent et qu'ils soient en bonne santé. Et ensuite, voici la conclusion de Jésus. Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu, hein, qui est votre Père dans les cieux, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et le Saint-Esprit ici fait référence aussi à cette relation hein, que Dieu désire avoir avec chacun d'entre nous par le beau nom de Jésus. Il représente aussi toutes ces promesses que le Saint-Esprit désire accomplir dans nos vies. Mais Jésus met aussi en évidence dans ce passage que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu bon. Et un Dieu bon a des bonnes choses pour nous. Et le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. J'aimerais vous le dire, le Saint-Esprit est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il vient, nous donner les bonnes choses de la part du Père. Donc nous devons accueillir le Saint-Esprit afin de pouvoir vivre toutes ces bonnes choses. Et je voudrais le répéter, si par exemple tu te retrouves dans une situation, il y a plusieurs soucis dans des situations peut-être difficiles, peut-être es-tu dans une épreuve, ou je ne sais. Et souvent, lorsqu'on est dans une situation de stress, l'ennemi en profite de mettre toutes sortes de pensées dans nos cœurs. Soudainement, on évite découragement, on se croit nul, on n'y arrivera jamais. Toutes sortes de pensées qui viennent. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Lorsque tu es face à une épreuve, lorsque tu es face à une situation difficile, sache que Dieu, même dans ces moments-là, veut ce qui est de meilleur pour toi. Il a prévu ce qui est bon. Et il veut t'encourager à lever les yeux, à lui faire confiance. Nous allons passer au travers de cette épreuve ensemble, car je suis un Dieu bon et je vais t'aider à passer au travers. Je ne veux pas ton mal, je veux ce qui est bon pour toi. Nous avons donc ici une promesse. Dieu veut répandre sur nous son esprit, car il veut nous donner tout ce qui est bon pour nous. Important de comprendre cela. Je rencontre parfois des gens qui sont dans des situations vraiment très difficiles. Ils sont allés voir des médecins, ils sont allés voir des psys, ils sont allés voir toutes sortes de personnes. Ils ont prié, ils ont jeûné et rien ne s'est passé dans leur vie. Et donc moi j'arrive au bout de liste, la 100e personne qui arrive. Ils ont déjà tout fait et j'arrive de nouveau. Je lui dis Dieu est bon, Dieu veut te toucher. Et je sens que c'est creux, ça sonne creux. Ils n'arrivent pas à saisir, ils n'arrivent plus à croire que Dieu est un Dieu bon, que Dieu veut faire quelque chose de bon dans leur vie. Et c'est difficile de pouvoir de nouveau les amener à croire et à saisir la parole de Dieu pour leur vie. Et peut-être que tu es dans une situation pareille, tu n'arrives plus à saisir la parole de Dieu pour ta vie. Tu n'arrives plus à croire que Dieu est un Dieu bon pour toi. Il est bon pour les autres, mais pour moi, c'est fini. Non, Dieu est bon pour chacun d'entre nous et aussi pour toi. Écoutez-moi bien maintenant. C'est pas que je mets ça en doute, je sais que vous m'écoutez, mais selon la promesse de Dieu donc, Dieu veut être avec nous par son esprit. Ok ? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire ? Exactement que Dieu veut être avec nous par son esprit. Ça veut dire quoi ? Dieu veut être avec moi par son esprit. Reprenons ce verset de Jean 14, verset 16. Jésus donc dit ici quelque chose de très intéressant. Il dit, donc je vais prier le Père afin que le Saint-Esprit vous soit envoyé. C'est ce qu'il dit. Hein. Voilà, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, un autre défenseur. Dans le texte original, hein, ce sont les mots « autre consolateur »,« allos parakletos ». Et le mot « parakletos hein, » signifie hein, « celui qui a été appelé à se tenir avec, à nos côtés ». Et Jésus a été un parakletos pour ses disciples. Jésus s'est tenu aux côtés de ses disciples pour les enseigner, pour les encourager, les former, les reprendre parfois, les protéger, hein, prendre leur défense, combattre avec eux, les consoler, les diriger. Il a été ce parakletos avec eux. Mais maintenant Jésus dit que lui il s'en va, mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai un autre parakletos qui va venir vers vous. Je vais vous envoyer un autre parakletos. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus, c'est pour ça qu'il est dit allos. Il est différent. Mais il est différent, mais il vient pour accomplir, il vient pour continuer le ministère de Jésus. Donc c'est un autre, mais c'est un parakletos comme Jésus. Il vient aussi pour accompagner, enseigner, défendre, pour former, pour enseigner, révéler. Il vient pour continuer ce que Jésus a commencé. Il vient pour les emmener plus loin. Il vient pour que les disciples puissent saisir tout ce que Jésus a accompli à la croix, qu'ils puissent enfin le vivre dans leur vie. Et en parlant de cet autre consolateur ou défenseur ou parakletos, Jésus dit au verset 17, le verset juste ensuite en dessous, qu'il sera avec nous et qu'il sera en nous. Mais là où cela devient intéressant pour nous, et que Jésus nous dit de quelle manière le Saint-Esprit veut être avec nous ou et en nous. Savez-vous de quelle manière le Saint-Esprit désire habiter en nous? Savez-vous de quelle manière le Saint-Esprit désire régner sur une église? Savez-vous de quelle manière le Saint-Esprit veut demeurer au milieu ici dans l'église d'Yverdon et aussi à Lausanne? Voici ce que Jésus dit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors ce petit mot éternellement, je le dis souvent lorsque je prêche sur le Saint-Esprit, a été très important pour moi dans ma compréhension de ce verset. Un jour, il y a plusieurs années en arrière, alors que j'étais en train de méditer ce verset, je sentais que le Seigneur désirait me dire quelque chose. Et j'étais attiré par ce mot éternellement. Alors j'ai commencé à chercher, à regarder dans les livres, dans les commentaires, sur Internet. Et c'est comme si je m'attendais à ce que ce mot soit mal traduit. Mais vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert que ce mot éternellement signifiait exactement ce qu'il voulait dire. Ah, la révélation! Ici, c'est bien traduit. Ça veut dire exactement ce éternellement. Mais ce fut une révélation pour moi. J'ai enfin compris quelque chose, j'ai compris quelque chose d'important dans ce passage. Soudainement, j'ai pris conscience que lorsque le Saint-Esprit nous a été envoyé, il ne vient pas pour rester juste un peu de temps avec nous, faire ce qu'il doit faire, nous toucher par-ci, nous toucher par-là, mettre un peu d'ordre par-ci, mettre un peu d'ordre par-là, et ensuite, lorsque nous avons retrouvé le sourire, il s'en va. Non, éternellement veut dire qu'une fois qu'il reste, tu ne peux plus t'en débarrasser. Il vient pour rester, il vient pour demeurer, il vient pour s'établir en toi. Et il ne veut plus partir, il veut rester avec toi. Alors, laissez-moi vous expliquer aussi par une illustration que j'aime utiliser lorsque j'explique ce passage. Admettons que je sois invité chez vous ce midi. En l'occurrence, ce sera chez Pasteur Luc. Mais admettons que je sois invité. Hein. Vous avez envie de m'inviter. Vous allez dire, ouais, il est sympa ce pasteur. Allez. Vous avez envie de m'inviter, n'est-ce pas? Hein, comme ça, on se raconter des histoires belges. Voilà. Et puis, ah, j'ai des frites au frigo. Ah, ça va être bon. Bon. Voilà. Vous m'invitez, admettons. Alors, une fois que j'arrive près de votre porte, ben, j'arrive en voiture. Qu'est-ce que je fais? Vous partez à l'avance, vous préparez les derniers petits détails. Hein. Alors, j'arrive et je sonne. C'est ce que je vais faire. Je sonne et puis j'attends. Ça semble logique, hein, mais je sonne et j'attends. J'attends quoi? Mais j'attends que vous veniez m'ouvrir la porte. Hein, je ne vais pas arriver, ouvrir la porte sans sonner, et puis dire hey, « Salut, c'est moi !» Non, je vais sonner, et je vais attendre que vous veniez ouvrir la porte. Ça semble logique, mais c'est ce qu'un invité fait. Il vient, il sonne, et il attend qu'on lui ouvre la porte. Ensuite, que vais-je faire? Je vais peut-être enlever ma veste. Quoique j'ai une petite confidence à vous faire, j'ai beaucoup maigri ces temps-ci, et mon pantalon a tendance à tomber, donc j'aime mettre la veste, comme ça vous ne voyez rien. Et je vais enlever ma veste et je vais attendre que vous me disiez « Mais où est-ce que je dois mettre la veste ?» Je ne vais pas la jeter comme ça par terre ou la mettre dans votre cuisine. Je vais attendre les instructions. Après, je vais attendre que vous peut-être m'invitiez dans le salon et que vous me dites « Mais assieds-toi là !» Je vais attendre que vous me proposiez à boire. Je ne vais pas aller dans votre frigo dire « J'aimerais bien boire ceci. Qu'est-ce que tu bois ?» Non, je vais attendre que vous me donniez les instructions, que vous me posiez les questions et que ce soit vous qui décidiez des choses. Et lorsque le temps du repas va venir, je vais manger, même si ça ne me plaît pas, mais je vais manger. Et ce sera très bon. Je vais manger, mais là, je ne vais rien dire, par politesse, reconnaissant d'être invité. Je vais manger, je vais garder le sourire. De toute façon, j'aime à peu près tout, sauf les huîtres. Ce n'aura pas... Okay. Oui, bon, ma femme aussi aime les huîtres et je décourage mes enfants, elle veut les encourager. Je dis non, mange des moules, c'est belge ça. Non, elle aime les huîtres. et voilà, bon, soit. Elle a des origines aussi françaises, ma femme. Donc. Et soit, toutes ces histoires de huîtres m'ont perdu un peu. Mais, une fois qu'on aura fini, donc, on va manger le repas. Et puis, en général, il a un petit dessert. En général, ça passe bien. Et. Après, il y a le café, bien sûr, avec Luc, on n'oublie pas le café. En général, un petit peu après ce moment-là, il y a une question qui vient dans notre esprit et dans l'esprit de l'autre. Ne serait-ce pas maintenant le bon moment de partir? Ceux qui nous invitent aussi, bon, ben, ils traînent un peu quand même. Hein. J'ai des choses à faire. Hein. Ouais, franchement, soyons sérieux, on le pense tous. Hein. Bon, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui, c'est vrai, je l'avoue. Ça dépend avec qui. Et nous, pasteurs, on aime être avec les gens, donc on le pense très rarement. Amen. Et donc, on est là ensemble, et puis voilà. Et puis le temps passe. Mais quelque part, c'est normal. Parce que finalement, moi, je suis un invité. Et un invité vient dans la maison, il mange, il discute, ainsi de suite. Mais ensuite, il repart. C'est logique. Il vient et il repart. Maintenant, le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il vient pour habiter en nous éternellement. Donc, il n'est pas un invité. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir juste... en tout cas, ce n'est pas de cette manière-là qu'il veut venir. Il ne veut pas juste venir et puis que, voilà, qu'on lui dise poliment ce qu'il doit faire. On lui donne des ordres. Fais ceci, assieds-toi là, mange ce que je te donne. Voilà. Non. Il n'est pas un invité. Donc, il ne vient pas juste pour faire ce que je lui demande, il ne vient pas juste pour me faire plaisir par-ci, par-là, et ensuite repartir. Jésus a dit qu'il vient pour habiter en moi éternellement. Donc, ce n'est pas un résident temporaire, c'est un résident éternel. Maintenant, quel genre de résident est-il? Nous savons tous que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, est-ce que le Saint-Esprit est au même niveau que moi-même? Est-ce qu'il est en dessous de moi? Non, il est Dieu, donc il est au-dessus. Donc lorsqu'il vient, il vient pour être Dieu. Lorsqu'il vient, il vient en tant que Dieu, il vient en tant que roi. Il vient en tant que propriétaire de la maison. Donc en général, lorsque c'est le propriétaire qui vient, qui sonne à votre porte. Ouh, vous êtes, oula, j'espère que tout est bien rangé. Tu as caché le petit truc là-bas. Vite. Non, le propriétaire vient, on change d'attitude là. Et il vient comme le propriétaire, il vient comme le roi, il vient comme le Dieu. Et la maison lui appartient. Et ce n'est pas moi à lui dire ce qu'il faut faire. C'est lui qui décide. C'est lui, il a le droit d'aller dans la chambre comme il veut. Vous imaginez, moi je vais dans la chambre de Luc, je vais fouiller dans ses affaires. Non, mais le Saint-Esprit a quelque part le droit. Alors il est sage. Il ne vient pas choquer ou provoquer pour provoquer. Il est sage, mais il est le propriétaire et il a le droit. Maintenant, est-ce que moi je lui laisse ce droit? Est-ce que moi je lui laisse ce droit? Parce que le Saint-Esprit ne va pas non plus forcer les choses. Il aimerait que je sois avec lui. Il aimerait que je lui donne le droit. Il aimerait que je lui donne cette autorité, même s'il a toute autorité. Mais il aimerait que je lui donne ce droit pour qu'on soit ensemble et qu'on collabore ensemble. Et lorsque je lui donne ce droit, alors le Saint-Esprit va le faire. Il va agir dans ma vie. Il va peut-être débarrasser des choses de ma vie, mais il va aussi remettre des choses nouvelles. Et lorsque l'ennemi va venir, il va me protéger. C'est tout bon, c'est gagnant pour moi. Ce sera à mon avantage. C'est ce que Jésus a dit. Alors n'aie pas peur, invite-le. N'aie pas peur, il va venir. Il va transformer des choses dans ta vie. Il y a des choses qui vont peut-être faire mal, mais il y a d'autres choses qui vont te faire sauter de joie parce qu'il va amener une libération et une liberté dans ta vie comme personne ne peut apporter dans ta vie. Alors accueille le Saint-Esprit dans ta vie. Apprends à le connaître. Oh, je sais que certaines églises, des fois, ont vécu des expériences douloureuses par le passé. Il y a eu des abus qui ont créé de la méfiance, et je le comprends. Alors peut-être qu'il faut peut-être maintenant, pour certaines personnes, y aller pas à pas. Et Dieu ira avec toi pas à pas et te conduira petit à petit peut-être à lui refaire confiance et à le laisser agir à nouveau d'une manière un peu particulière, un peu plus profonde dans ta vie. Amen. Permettez-moi, et peut-être que vous connaissez cette parabole, mais je termine maintenant par cette petite parabole que vous connaissez peut-être. Je termine juste par cette petite parabole. Un jour, un homme hérita d'une grande maison. Il arrive dans cette maison, il est tout content, il a les clés de la maison, 6 pièces en haut, 6 pièces en bas, très grande maison, il est joyeux, heureux de pouvoir habiter dans cette maison à lui tout seul. Et voilà que quelques jours passent, quelqu'un sonne à la porte de sa maison. Alors il va, il ouvre la porte, et là, à sa grande joie, c'est Jésus. Et donc, il invite Jésus à rentrer chez lui. Nous l'avons tous fait, n'est-ce pas? Et Jésus rentre chez lui. Et cet homme va s'adresser à Jésus et lui dire, « Mon ami, bienvenue à toi, Jésus. Tu es ici chez toi. Va, je t'offre une pièce de la maison. Tu peux aller dans une pièce de la maison. » Jésus ne dit rien, il monte et il s'installe dans une pièce dans la maison. Et il agit dans cette pièce. Quelques jours passent encore. De nouveau, quelqu'un sonne à la porte de la maison. L'homme va, ouvre la porte et là, très surpris, il voit le diable. Et le diable cherche à entrer chez lui, mais lorsqu'il voit le diable, il va s'opposer au diable. Il va le repousser. Le diable cherche à rentrer. Et là, il va y avoir un combat au pas de la porte. Et l'homme va se battre contre le diable et va faire tous ses efforts pour le repousser. Et après quelques minutes, il va réussir à le repousser, fermer la porte et va s'écrouler par terre en sueur, fatigué du combat. Et là, il va se rappeler que Jésus est dans sa maison, que Jésus est dans la pièce et que Jésus n'a rien fait. Alors il va crier « Jésus, Jésus, Jésus !» Jésus va venir. Il dit « Mais Jésus, pourquoi tu n'as rien fait? Tu étais pourtant dans la maison, tu as vu, tu as entendu le combat dans lequel je suis, le diable qui a cherché à rentrer, ça aurait pu être terrible, pourquoi tu n'as rien fait ?» Et Jésus va le regarder, il va dire « mon ami, je suis ici seulement ton invité. » Et il remonta. Quelques jours passèrent à nouveau, quelqu'un sonne à la porte, il ouvre et c'est à nouveau le diable. Et le diable cherche à rentrer à nouveau, et de nouveau il y a un combat qui dure encore plus de temps. Il réussit quand même enfin à le repousser, il est épuisé, fatigué, et à nouveau il dit « Jésus, pourquoi tu n'as rien fait ?» Jésus descend et lui dit la même chose. « Mon ami, je suis ici seulement ton invité. » Et là, soudainement, il a compris quelque chose. Alors il se lève, il met la main dans sa poche, et retire un grand trousseau de clés. La clé c'était les clés pour chaque porte. Et il va remettre ce trousseau de clés à Jésus. Et il dira à Jésus, désormais, tu n'es plus mon invité. Tu es le roi de cette maison. Tu es le propriétaire de cette maison et moi, je suis ton serviteur. Jésus prit les clés avec un grand sourire. Et quelques jours passèrent. De nouveau, quelqu'un sonne à la porte. Écoutez, ding dong. Vous entendez ? Ding dong. C'est en ce moment même, quelqu'un sonne à votre porte. Ding dong. Une porte s'ouvre en haut. On entend des pas. Ferme. Ces pas sont en train de descendre les escaliers. Chaque escalier tremble. Cet homme arrive près de la porte. La porte s'ouvre. Le diable était prêt à sauter dans la maison. Mais lorsqu'il voit la personne, il s'arrête net. Et en quelques secondes, le téléphone stoppe. Et en quelques secondes, le diable a été chassé. Parce que c'était Jésus qui était là. C'était Jésus qui était là. C'est Jésus qui était venu ouvrir la porte avec le trousseau de clés dans sa main. L'homme avait remis les clés à Jésus, avait remis l'autorité à Jésus, avait remis la maison entre ses mains. Et Jésus était maintenant libre d'agir dans cette maison, était maintenant libre d'agir et de combattre avec lui. Mes amis, c'est exactement ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Lorsque nous remettons toutes les clés de nos vies dans les mains de Jésus, nous lui donnons le droit d'agir dans nos vies, mais nous lui permettons aussi d'être avec nous, ce vaillant combattant, ce vaillant héros qui va combattre avec nous, qui va faire face avec nous plutôt chaque combat. En ce moment même, tu es peut-être dans un combat, mais tu n'as pas remis toutes les clés entre ses mains. Il y a certaines pièces que tu tiens pour toi. Jésus peut aller là-bas, Jésus peut aller là-bas par son esprit, mais là je ne veux pas, là je ne veux pas. C'est un moment à moi, pour moi, je veux juste vivre ce moment de chair, ce moment de péché, c'est à moi Jésus. Parfois on est comme ça, ça c'est à moi Jésus. Si tu enlèves ça, je vais souffrir, Jésus. Ça va me faire mal, Jésus. Alors je le garde. Mais Jésus aimerait venir dans chaque pièce et t'aider à juste lui faire confiance. Amen.